Conan Doyle, le coffre à rayures. Que pensez-vous que ce soit, Lord Ice? Demandai-je. Mon second était debout à côté de moi, sur la dunette, solidement planté sur ses jambes trapues, qu'il avait mises en équerre pour se maintenir d'aplomb, car la tourmente avait laissé sur son passage une si forte houle que nos deux canaux d'arrière effleuraient presque l'eau à chaque coup de roulis. Il appuya sa lorgnette aux agrès et regarda longuement avec attention le navire en perdition que la mer mauvaise soulevait de temps à autre sur la crête d'une lame pour le précipiter aussitôt après dans l'abîme qui le séparait de la suivante. Sa coque était tellement enfoncée dans l'eau que c'est à peine si je parvenais par instant à entrevoir la couleur verte poids de son bastingage. C'était un brick dont le grand mât s'était rompu à 3 mètres au-dessus du pont, sans qu'aucun effort ne semblât avoir été tenté pour le débarrasser de tout l'amas de voiles et de vergues qui traînaient lamentablement derrière lui comme l'aile pantelante d'une mouette blessée. Le mât de misaine était encore debout, mais ses voiles détachées claquaient au vent et ses forces se déroulaient devant lui ainsi que de grandes banderoles blanches. « Bon, cela m'a tout l'air de n'être plus qu'une épave, » déclara enfin mon second. « Et quelles sont ses couleurs ?» demandai-je. C'est précisément ce que je m'efforce de voir, mais son pavillon s'est complètement entortillé dans les haubans. Ah, j'y suis cette fois. Oh, je le vois distinctement. C'est le pavillon brésilien. Seulement, il a la tête en bas. » Ainsi, les pauvres gens avaient fait des signaux de détresse avant de quitter leur bord. Qui sait? Peut-être n'y avait-il pas si longtemps qu'ils étaient partis. Je pris la lorgnette de mon second et me mis à scruter de tous côtés la surface bleue foncée de l'océan, toute sillonnée de lignes blanches et de gerbes d'écume. Mais il ne me fut possible d'apercevoir aucun naufragé. « Peut-être y a-t-il encore des survivants à bord, » hasardai-je. « Oh, peut-être aussi une cargaison intéressante, » murmura mon second. « Mais en ce cas, rapprochons-nous de lui pour nous en assurer, » répondis-je. Nous poussâmes jusqu'à une centaine de brasses du brick, et une fois là, nous mîmes en panne. Ainsi, placés face à face, nous avions l'air, avec tous nos balancements et nos saluts, de deux clowns qui exécutent une danse excentrique. « Monsieur Lardaise, dis-je alors, prenez 4 hommes avec vous. Mettez une des chaloupes à la mer et allez voir un peu de quoi il s'agit. » Mais juste à ce moment, nous fûmes rejoints par mon premier lieutenant, Monsieur Armstrong, car on venait de piquer 7 et son quart était sur le point de commencer. Ayant grande envie d'aller me rendre compte par moi-même de la situation du bateau abandonné, je donnai rapidement quelques instructions à Armstrong, enjambai le bastingage, et me laissant glisser le long des cordages qui pendaient des pistolets, je pris place à l'arrière de la chaloupe. La distance que nous avions à parcourir était courte, mais il nous fallut quand même un certain temps pour la franchir, et la mer était encore si grosse que, lorsque nous nous trouvions entre deux lames, il nous devenait impossible de voir ni le brick vers lequel nous avancions, ni notre propre bâtiment que nous venions de quitter. « Mieux vaut choisir le côté sous le vent, » dit mon second. « Préparez la gaffe, charpentier !» Quelques instants après, nous escaladions notre sombastingage, qui ne dépassait guère la hauteur de notre chaloupe, et nous trouvions sur le pont du navire en perdition. Notre premier soin fut d'assurer notre propre sécurité pour le cas où, ce qui semblait très probable, le brick viendrait à s'enfoncer sous nos pieds. Dans ce but, 2 de nos hommes, tenant le filin qui retenait la chaloupe, le poussèrent un peu en dehors du bateau étranger, de façon qu'elle demeura à notre portée si nous étions obligés de battre précipitamment en retraite. Le charpentier fut ensuite envoyé dans les soutes afin de vérifier quel niveau avait atteint l'eau et si elle montait encore, tandis que Lardaise et moi, accompagnés de l'autre matelot, procédions à une hâtive inspection du navire et de sa cargaison. Le pont était encombré d'espars et de cages à poules, dans lesquelles nageaient des cadavres de volailles. Toutes les embarcations manquaient, sauf une seule, dont le fond était en mauvais état. La cabine du commandant était placée dans une superstructure dont une des parois avait été dévoncée par un paquet de mer. J'y pénétrais avec mon second et trouvais la table du commandant telle qu'il l'avait laissée, avec ses livres et ses papiers, tous espagnols ou portugais, éperpillés dessus et parsemés d'une quantité de cendres de cigarettes. Je cherchais partout le livre de bord, mais ne pus le découvrir. « Oh, il est fort probable qu'il n'en tenait pas de mon port, » me dit Amaris. « On est très négligent à bord des bateaux marchands sud-américains, et on s'y bat toujours au strict nécessaire. En tout cas, s'il en existait un, il a dû l'emporter en s'en allant. Ben, je voudrais bien recueillir tous ces livres et ces papiers, » répliquai-je. « Demandez au charpentier de combien de temps nous disposons. » Son rapport fut rassurant. Le navire était plein d'eau, mais une partie de sa cargaison était composée de matières légères, de sorte qu'il n'était pas en danger immédiat de sombrer. Selon toute apparence, il ne sombrerait même pas du tout, mais continuerait à voguer à la dérive, transformé en un de ces terribles écueils flottants qui sont la cause de tant de sinistres. « Eh bien, en ce cas, vous pouvez descendre sans crainte, monsieur Allardyce, repris-je. Allez visiter la cale et dites-nous s'il est possible ou non de sauver une partie de la cargaison. Moi, pendant ce temps, je jetterai un coup d'œil sur ces paperasses, les factures de chargement ainsi que diverses lettres et notes retrouvées sur le bureau. » Suffirent à m'apprendre que le brick brésilien Nossa Senhora de Vitoria avait quitté Bahia un mois auparavant. Le nom du commandant était Texedra, mais il n'y avait aucune indication permettant d'évaluer le nombre des hommes dont se composait l'équipage. Finalement, à force de fouiller parmi tous ces papiers, je rencontrai un court billet écrit en anglais qui retint mon attention. Il était rédigé comme suit. Prière de placer les antiquités espagnoles et indiennes provenant de la collection Sotarem et livrables à messieurs Proudfoot et Newman, Oxford Street, à Londres, dans un endroit où ces spécimens uniques d'une valeur inestimable ne pourront courir le risque d'être endommagés ou volés. Cette recommandation s'explique. Tout spécialement, elle s'applique au précieux coffre de Don Ramirez d'Ileira, qui ne devra sous aucun prétexte être mis à une place où l'on soit susceptible d'y toucher. Le précieux coffre de Don Ramirez, des spécimens uniques d'une valeur inestimable, pour le coup, cela commençait à devenir plus intéressant. Le papier en main, je venais de m'éloigner de la table lorsque mon second Écossais reparut sur le seuil de la cabine. « Commandant, dit-il, je viens de m'apercevoir qu'il s'était passé quelque chose de pas très régulier à bord de ce navire. » C'était un homme aux traits durs et généralement impénétrables, mais je me rendis compte que, pour une fois, il était sérieusement bouleversé. « Qu'y a-t-il donc ?»« Eh, a-t-il s'y ait commis un crime, commandant ?» J'ai découvert un homme qui a le crâne défoncé. Mais qui vous dit qu'il n'a pas plutôt été tué accidentellement pendant la tempête ? Répliquai-je. C'est possible, commandant, mais quand vous l'aurez vu, oh, je doute que vous persistiez dans cette idée. Et où est-il ? Par ici, monsieur, là, dans le grand roufle. Apparemment, aucun aménagement n'avait été pratiqué dans notre pont pour loger les officiers et les hommes du brick. Car il y avait, comme je l'ai expliqué, une superstructure établie sur le pont pour servir de cabine au commandant, une autre à côté de la plus grande écoutille, et faisant corps avec la cuisine, et enfin, une troisième sur le gaillard d'avant à l'usage des hommes. Ce fut vers celle du milieu que me conduisit mon second. En y entrant, on trouvait immédiatement à droite la cuisine, où gisait pêle-mêle dans un désordre indescriptible, les casseroles et les plats, et à gauche une petite cabine avec deux couchettes pour les officiers. En face s'ouvrait un réduit de 3 ou 4 mètres carrés où étaient entassés des pavillons de signaux et des ballots de toile à voile. Tout autour étaient rangés des paquets enveloppés de grosses toiles et soigneusement attachés aux rayons qui les supportaient. Au fond, on voyait un grand coffre à rayures rouges et blanches, mais dont le rouge était devenu si pâle et le blanc si sale que c'est seulement aux endroits où la lumière tombait en plein dessus qu'il était possible d'en distinguer les couleurs. Le coffre en question, ainsi que j'eus l'occasion de le constater par la suite, mesurait 1,30 m de long sur 95 cm de haut et 90 de large, ce qui revient à dire qu'il était beaucoup plus grand que les coffres dont se servent habituellement les marins. Mais ce ne fut pas sur ce coffre que mes yeux et mes pensées se portèrent tout d'abord, lorsque je pénétrai dans ce réduit. Par terre, sur le plancher où s'étaient éparpillés les pavillons de signaux, était étendu un homme de petite taille, au visage bistré, encadré d'une courte barbe bouclée. Une tache écarlate s'étalait sur l'étamine blanche où reposait sa tête, et de petites traînées rouges, qui se prolongeaient à côté de lui sur le plancher, sillonnaient son cou trapu. Toutefois, je ne vis sur lui aucune trace de plaie, et sa physionomie me parut aussi calme que celle d'un enfant endormi. Ce n'est qu'en me penchant sur lui que j'aperçus enfin la blessure à laquelle était imputable sa mort. Et dès que je la vis, je me rejetai en arrière en proférant une exclamation horrifiée. L'homme avait été traîtreusement frappé par derrière, et le choc avait dû être effroyable, car la boîte crânienne était ouverte en deux et le cerveau réduit en bouillie. S'il avait la physionomie si placide, cela tenait sans doute à ce que la mort avait été absolument instantanée. D'ailleurs, la position même de la blessure indiquait nettement qu'il lui avait été impossible de voir son assaillant. « Eh bien, commandant, me demanda modestement mon second, êtes-vous toujours d'avis qu'il a été tué accidentellement ?»« Ben non, vous aviez parfaitement raison, monsieur Allardyce. Cet homme a été assassiné. On se rend très bien compte qu'il a été frappé par derrière et sur le sommet de la tête par un instrument lourd et tranchant. Mais pourquoi l'a-t-on assassiné? Qui pouvait-il être ?» Oh, un simple matelot, commandant, me répliqua mon second, il n'y a qu'à regarder ses mains. Se disant, il retourna les poches du mort et en retira un jeu de cartes, du fil goudronné et un paquet de tabac brésilien. Tiens, dit-il, qu'est-ce que c'est? Il venait de ramasser par terre un grand couteau ouvert au ressort très dur. L'acier de la lame en était trop brillant et trop net pour qu'on pût songer un instant qu'il eût joué un quelconque rôle dans le drame dont ce réduit avait été le théâtre si peu de temps auparavant. Néanmoins, il était à présumer que la victime le tenait à la main au moment où elle avait été frappée, puisqu'on le retrouvait ainsi, tout près d'elle. « Ben, je suis tenté de croire, commandant. » Il se savait en danger et que c'est la raison qu'il avait fait se munir de ce couteau, me dit Allardyce. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons plus être d'aucun secours à ce pauvre diable, désormais. Ce que je me demande, c'est ce que peuvent être ces objets attachés dans ces casiers. On dirait des idoles, des armes et des curiosités de toutes sortes, enveloppées dans de vieux sacs. Et c'est cela même, lui répondis-je. Ce sont les seuls objets de valeur qui figurent dans la cargaison. Appelez les hommes qui sont restés dans la chaloupe et dites-leur d'aller chercher l'autre embarcation afin que nous puissions transporter tout cela à bord. Pendant son absence, je me mis à inspecter le curieux butin qui venait de tomber en notre possession. Les curiosités étaient si soigneusement empaquetées qu'on ne pouvait en définir la nature exacte, mais le coffre à rayures, qui se trouvait en pleine lumière, était au contraire facile à examiner. Sur le couvercle, garni de ferrures à sa surface et aux angles, étaient gravées des armoiries très chargées, avec au-dessous une ligne écrite en espagnol, dont je réussis à faire la traduction que voici. Coffre renfermant le trésor de Don Ramirez d'Ileira, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, gouverneur et capitaine général de Terra Firma et de la province de Veracruz. Dans un coin figurait la date 1606, et dans l'autre était collée une grande étiquette blanche avec cette inscription en anglais: Prière instant de n'ouvrir ce coffre sous aucun prétexte. Le même avertissement était répété plus bas en langue espagnole. Quant à la serrure, une serrure très puissante et très compliquée, elle était en acier guilloché et portait une devise en latin au-dessus de la compétence d'un marin. Lorsque j'eus terminé l'inspection de ce singulier coffre, l'autre chaloupe montée par Armstrong, le premier lieutenant, était arrivée avec la première, et nous commençâmes à y transporter les curiosités empaquetées qui seules nous avaient paru mériter d'être sauvées. Lorsqu'elle fut pleine, je l'envoyai rejoindre le Mary Sinclair, après quoi, Allardyce et moi, aidés du maître charpentier et d'un matelot, transportâmes jusqu'à notre embarcation le coffre à rayures qui seul n'avait pas été déplacé encore, et l'y déposâmes juste au milieu, car il était si pesant qu'il en aurait compromis l'équilibre si on l'avait mis à l'avant ou à l'arrière. Quant au mort, nous le laissâmes tel que nous l'avions trouvé. Le pesant coffre fut hissé à l'aide de Pollan sur le pont de la Mary Sinclair, puis transporté à bras par quatre matelots et déposé dans le carré où il y eut tout juste place pour le caser entre la table et la paroi du fond. Après le souper, mes officiers restèrent à prendre un verre de grog avec moi et nous discutâmes ensemble l'événement de la journée. Monsieur Armstrong était un grand maigre aux allures de vautour, excellent marin s'il en fut, mais réputé pour son avarice et sa cupidité. Notre trouvaille l'avait jeté dans une très vive agitation et s'était déjà mis à calculer fiévreusement ce qu'elle pourrait nous rapporter à chacun lors de la répartition des bénéfices. Ah, du moment que ce papier dit que ces spécimens sont uniques, monsieur Barclay, cela indique qu'ils ne doivent pas avoir de prix. Vous n'imagineriez jamais les sommes que déboursent les riches collectionneurs pour se procurer des pièces rares de ce genre. Ces gens-là dépensent 1 000 livres comme un sou. Ah, nous pourrons nous vanter d'avoir fait un fructueux voyage, ou je me trompe fort. Oh non, je suis pas si sûr que vous, ripostai-je. Autant qu'il m'a été permis d'en juger, ces spécimens ne présentent rien de plus remarquable que les curiosités sud-américaines que l'on voit couramment. Oh, mais ma foi, monsieur Barclay, j'ai fait là-bas 14 voyages et jamais j'ai rencontré rien de semblable à ce coffre. Pour ce qui est de lui, en tout cas, je gage qu'il vaut des tas d'argent. Et en plus, ça est si lourd qu'il ne doit sûrement pas être vide. Il faut que ce qu'il contient soit bien précieux pour qu'on l'ait enfermé dans une cassette pareille. Ne trouvez-vous pas que nous devrions l'ouvrir pour nous en assurer? Ah, mais si vous le forcez pour l'ouvrir, vous l'abîmeriez certainement, objecta le second. Armstrong s'en approcha et s'accroupit auprès, la tête penchée un peu de côté et son grand nez maigre à quelques centimètres de la serrure. Oh, c'est du chêne, déclara-t-il, et il a un peu joué avec le temps. Si j'avais un ciseau à froid ou un couteau à forte lame, je me chargerais de forcer cette serrure sans endommager quoi que ce soit. Cette allusion à un couteau à forte lame me fit tout de suite repenser au matelot mort que nous avions trouvé à bord du brick. Et qui sait s'il n'était pas lui-même en train de l'accrocher quand quelqu'un l'a pris sur le fait, m'écriai-je. Oh, quant à cela, je l'ignore, monsieur Barclay, mais ce que je sais bien, c'est que je charge cette serrure. Il y a un tournevis ici, dans ce tiroir. Allez, tous les mois, la lampe à l'Ardèche, vous allez voir, si vous passez en 5 secs. Attendez, attendez un peu, protestai-je, car les yeux enflammés de curiosité et de convoitise, il se penchait déjà sur le couvercle. Il n'y a rien qui presse. Vous avez lu cette étiquette qui recommande instamment de ne pas l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est sérieux ou non, mais quoi qu'il en soit, je préférerais m'y conformer. Après tout, ce qu'il y a dedans, s'il y a vraiment quelque chose, peut fort bien y rester quelque temps encore. La valeur que cela peut avoir ne sera plus diminuée du fait que le coffre aura été ouvert dans les bureaux de l'armateur au lieu de l'être dans le carré de la Mary Sinclair. Le premier lieutenant parut amèrement dépité de ma décision. Bah, ajouta Larisse, l'étiquette ne prouve-t-elle pas que le coffre a déjà été examiné par des Européens? Ce n'est pas parce qu'il possède une serrure compliquée qu'il recèle nécessairement un trésor. Soyez tranquille. Oh, il n'y a plus d'un qui a dû fourrer son nez là-dedans depuis l'époque du vieux gouverneur de Terra Firma. Armstrong jeta le tournevis sur la table et haussa les épaules. À votre aise, répondit-il. Mais pendant toute la soirée, et bien que notre conversation eût roulé sur d'autres sujets fort différents, je remarquai que ses regards se reportaient constamment vers le vieux coffre à rayures, avec la même expression avide et intriguée. Me voici maintenant parvenu à cette partie de mon histoire qui, aujourd'hui encore, lorsque j'y repense, me fait frissonner d'horreur. Les cabines des officiers à bord de la Mary Sinclair étaient groupées autour du carré, mais la mienne, située au fond du petit passage qui conduisait à l'échelle, était celle qui s'en trouvait le plus éloignée. C'étaient mes 3 officiers qui se partageaient habituellement les quarts, et quant à moi, je n'en prenais jamais aucun, sauf en cas de nécessité absolue. Armstrong, lui, prenait celui du milieu, qui se termine à 4 heures du matin, et c'était Allardyce qui le relevait. Pour ma part, j'ai toujours dormi comme un véritable sonneur, et il est bien rare que je m'éveille tant que l'on ne vient pas me secouer par l'épaule. Cette nuit-là, pourtant, ou plus exactement au petit jour, je fus exceptionnellement tiré de mon sommeil. Il était juste 4 heures et demie à mon chronomètre, lorsqu'un bruit que je ne saurais définir me fit me dresser sur mon séant, les yeux grands ouverts et tous les nerfs à fleur de peau. Ça avait été comme un choc sourd, suivi d'un cri angoissé qui me résonnait encore aux oreilles. J'écoutais avec attention, mais à présent, tout était retombé dans le silence le plus complet. Cependant, je savais bien que je ne l'avais pas rêvé, ce cri affreux dont l'écho continuait à me poursuivre et qui me donnait l'impression d'avoir été poussé là, tout près de moi. Je sautai à bas de ma couchette, enfilai à la hâte quelques vêtements et me dirigeai vers le carré. Tout d'abord, je n'y remarquai rien d'anormal. Dans les premières lueurs froides et grises de l'aube, j'entrevis la table avec son tapis rouge, les 6 fauteuils tournants, les placards en acajou, le baromètre qui se balançait au rythme du roulis, et là, tout au fond, le grand coffre à rayures. Je m'apprêtais à repasser la porte avec l'intention de monter sur le pont, demander à mon second s'il n'avait rien entendu d'insolite, lorsque mes yeux se portèrent soudain sur quelque chose qui dépassait de dessous la table. C'était une jambe. Une jambe chaussée d'une grosse botte de mer. Je me baissai aussitôt et je vis un homme, la face contre le plancher, les bras en avant et le corps contorsionné. Un coup d'œil suffit à me faire voir que c'était Armstrong, et un second pour me donner la certitude qu'il était mort. Sur le premier moment, la stupeur me cloua sur place, puis je m'élançai sur le pont, appelai à Allardyce et à mon aide, et revins avec lui au carré. À nous deux, nous sortîmes le pauvre diable de dessous la table, et en apercevant sa tête baignée de sang, nous nous regardâmes atterrés. Je ne sais lequel de nous deux était le plus blême. Mais la même chose que le matelot espagnol, constatai-je. Mais exactement. Oh, que Dieu nous fasse miséricorde, c'est ce maudit coffre. Voyez la main d'Armstrong. Il souleva la main droite du mort pour me la montrer, et je vis qu'elle tenait le tournevis dont il avait voulu servir la veille au soir. Oh, il aura voulu forcer le coffre, monsieur Barclay. Il savait que vous dormiez et que moi j'étais sur le pont. Il s'est agenouillé devant le coffre, il a accroché la serrure à l'aide de cet outil, et puis il lui est arrivé quelque chose. Et alors il a poussé le cri que vous avez entendu. Mais alors, Nice, murmurai-je, que peut-il bien lui être arrivé? Mon second me prit par le bras et m'attira dans le couloir. Parlons plutôt ici, monsieur Barclay, me dit-il. Là-dedans, nous risquerions d'être entendus. Comment savez-vous qu'il y ait dans ce coffre? Ben, je n'en ai pas la moindre idée, alors là, je vous en donne ma parole. Eh bien, je ne vois qu'une seule hypothèse admissible. Considérez les dimensions du coffre. Considérez toutes ces moulures et ces ferrures qui peuvent dissimuler une innombrable quantité de petits trous. Considérez son poids. Il n'a pas fallu, vous le savez, moins de 4 hommes pour le porter. En plus de cela, rappelez-vous que 2 hommes ont tenté de l'ouvrir et que tous 2 ont été massacrés. Et maintenant, monsieur Barclay, réfléchissez. Il n'y a pas 2 manières d'expliquer la chose. Il n'y en a qu'une. Vous voulez dire qu'il y a un homme caché là-dedans? Et naturellement, il y a un homme caché dedans. Vous n'ignorez pas comment les choses se passent dans ces petits états de l'Amérique du Sud. Celui qui est président de la République aujourd'hui est exposé à se voir demain traqué comme une bête sauvage. Ces gens-là sont perpétuellement en péril de mort. Mon opinion est qu'il y a là-dedans un homme armé et désespéré, prêt à lutter jusqu'à la mort, plutôt que de se laisser prendre. Mais comment ferait-il pour manger, pour boire? Mais c'est un coffre spacieux, monsieur Barclay, et cet homme peut très bien y avoir installé des provisions. Maintenant, pour ce qui est de boire, qui nous prouve qu'il n'avait pas parmi l'équipage du brick un ami qui veillait à ses besoins? Alors, selon vous, l'étiquette où il est recommandé de ne pas ouvrir le coffre n'a été placée là que dans son intérêt? Certainement, monsieur Barclay, c'est mon idée. Avez-vous un autre moyen d'expliquer les faits? Je fus forcé de lui avouer que non. Mais la question qui se pose à présent, ajoutai-je, est de savoir ce que nous allons faire. Cet homme est certainement un dangereux coquin qui ne reculera devant rien. À mon avis, le mieux serait de passer une corde autour du coffre, de le descendre à la mer et de le traîner ainsi sous l'eau pendant 1/2 heure. Au bout de ce temps-là, on pourrait ouvrir le coffre sans aucune crainte. Ou encore, on pourrait aller solidement le coffre. On pourrait le lier avec l'intention d'empêcher l'individu de se procurer à boire. Il y aurait aussi un autre moyen. Le maître charpentier n'aurait qu'à passer une couche de vernis sur toutes les faces du coffre. Cela boucherait tous les trous. Alors, Lord Allardyce, dis-je avec colère, vous ne vous parlez pas sérieusement. Tout l'équipage d'un navire ne va pas se laisser terroriser par un seul homme enfermé dans une boîte. Si véritablement il y a quelqu'un là-dedans, j'ai besoin de personne pour le faire sortir. J'entrai dans ma cabine et en ressortis avec mon revolver. Et maintenant, Allardyce, repris-je, allez-y, allez crocheter la serrure, je suis prêt. Pour l'amour du ciel, pensez à ce que vous faites, monsieur Barclay, s'écria mon second. 2 hommes y ont perdu la vie, et le sang du 2e n'est même pas sec encore. Mais raison de plus pour que nous le vengions. Eh bien, monsieur Barclay, laissez-moi au moins appeler le maître charpentier. C'est un robuste gaillard, et 3 hommes valent mieux que 2. Il s'en fut le chercher, et je restai seul avec le coffre à rayures dans le carré. Oh, je ne crois pas que l'on puisse m'accuser d'être impressionnable, Mais j'avoue que je restais prudemment de l'autre côté de la table derrière laquelle était cette vieille relique du malin espagnol. Dans la lumière croissante du matin, on commençait à distinguer les rayures rouges et blanches du coffre ainsi que les curieuses ferrures ouvragées et les ciselures compliquées où se révélait le soin minutieux des habiles artisans qui l'avaient construit. Au bout de quelques instants, mon second revint, escorté du maître charpentier, qui, je le vis, tenait un marteau à la main. Sale affaire, commandant, me dit-il avec un hochement de tête en regardant le corps du premier lieutenant. Alors vous voyez vraiment qu'il y a quelqu'un de caché là-dedans? Mais cela ne fait pas l'ombre d'un doute, affirma Allardyce, serrant les mâchoires comme un homme qui cherche à rassembler tout son courage. Placez-vous à côté de moi et je vais forcer la serrure. S'il se dresse, assommez-le avec votre marteau, charpentier. Et vous, commandant, si vous le voyez lever le bras, faites feu sur lui tout de suite. Nous y sommes. Il s'était agenouillé devant le coffre à rayures et passant la lame de son outil sous le couvercle, il fit une pesée. Il y eut un brusque déclic et le pêne rentra dans la serrure. Attention! Cria-t-il. Et, poussant de toutes ses forces, il souleva le lourd couvercle massif du coffre. Au moment où le coffre s'ouvrait, nous fîmes tous les trois un bond en arrière, moi le doigt sur la détente de mon revolver et le maître charpentier avec son marteau brandi au-dessus de sa tête. Puis voyant que rien ne se produisait, nous fûmes tous un pas en avant pour regarder à l'intérieur du coffre. Il était vide. Pas tout à fait vide pourtant, car il y avait dans un coin un vieux chandelier ciselé qui paraissait aussi ancien que le coffre lui-même. Sa riche couleur jaune et sa forme artistique donnaient à penser que c'était un objet de valeur. À part cela, rien de précieux ni de lourd dans le vénérable coffre à rayures, seulement de la poussière. Ça, par exemple, c'est trop fort! S'exclama Lardaïs en continuant à regarder d'un air hébété l'espace vide encadré par la caisse de chêne. Mais alors, comment se fait-il qu'il pèse un poids pareil? Regardez les parois et le couvercle. Ils ont au moins 10 à 12 cm d'épaisseur. Et puis voyez ce grand ressort de métal qu'il traverse. Mais ça, c'est pour maintenir le couvercle ouvert, dit le second. Vous remarquez, il ne peut pas se rabattre. Tiens, quelle est cette inscription en allemand qui se trouve là-dedans? Oh, cela signifie qu'il a été fabriqué par Johann Rammstein d'Augsbourg en 1606. Oh, c'est du travail solide, on peut le dire. Mais en attendant, cela n'éclaircit rien dans la situation, n'est-ce pas, monsieur Barclay? Ce chandelier a l'air d'être en or. Allons, nous serons tout de même dédommagés de notre peine à ce que je vois. Il se pencha en avant pour le prendre, et à dater de cet instant-là, j'ai toujours eu foi en la réalité des pressentiments, car au même moment, je l'empoignai par le col de sa veste et l'attirai violemment en arrière. Était-ce qu'une histoire du Moyen-Âge m'était revenue à l'esprit? Était-ce que mes yeux avaient remarqué, sur la partie supérieure de la serrure, une tache rouge qui n'était pas de la rouille? Je n'en sais rien. Mais lui, comme moi, seront toujours tentés de croire, tant mon geste avait été impulsif, que j'avais avant tout été guidé par une sorte d'obscure intuition. Oh, mais il y a certainement quelque chose là de diabolique là-dedans, m'écriai-je. Allez, passez-moi la canne qui est dans le coin. C'était une canne ordinaire terminée par une crosse. Je passai la crosse sous le chandelier et tirai à moi. Immédiatement, avec la promptitude d'un éclair, une rangée de dents d'acier brillantes jaillirent du dessous du couvercle Et le grand coffre à rayures, tel un fauve géant, essaya de nous happer dans sa formidable mâchoire. Si brutal avait été le choc de l'énorme couvercle qui se rabattait, que les verres alignés dans le râtelier de l'étagère en tintèrent. Mon second s'assit sur le bord de la table, il tremblait aussi fort qu'un cheval effrayé. Oh, vous venez de me sauver la vie, monsieur Barclay, balbutia-t-il. Ainsi, c'était là le secret du coffre à rayures de Don Ramirez d'Ileira. Et voilà comment il protégeait le fruit de ses pillages à Terra Firma et dans la province de Varacas. Si malin fut-il, le voleur qui venait pour lui dérober son bien mal acquis ne pouvait faire aucune différence entre ce chandelier d'or et les autres objets précieux renfermés dans le coffre. Et à l'instant même où il posait la main dessus pour s'en saisir, le terrible ressort se détendait et les crocs d'acier meurtriers s'enfonçaient dans la cervelle du malheureux, qui, sous la violence du choc, se trouvait en même temps projeté en arrière, permettant de la sorte au couvercle de se refermer librement. Combien de victimes, me demandai-je, avaient payé leur tribut à la satanique ingéniosité de cet inventeur d'Augsbourg, effaré à la pensée de tous les drames dont il pouvait encore être cause par la suite, je pris sur le champ une résolution irrévocable. « Maître charpentier, allez me chercher trois hommes et portez-moi ça sur le pont. Vous allez le jeter à la mer, commandant ?»« Oui, monsieur Allardyce, je ne suis pas superstitieux d'habitude, mais... il y a des choses qui sont trop dures à supporter, même pour un marin. Pas étonnant que ce brick ait eu tant de malchance, monsieur Barclay, avec une pareille chose à bord. Le baromètre baisse rapidement. Oh, je crois que nous ferons bien de nous dépêcher. » Sans attendre, les trois matelots, nous le transportâmes donc nous-mêmes, le second, le maître charpentier et moi, et le poussâmes de nos propres mains par-dessus bord. Un bruit sourd, une grande gerbe d'écume, et les flots se refermèrent sur lui. À l'heure qu'il est, il repose encore là-bas, au fond de l'abîme, le sinistre coffre à rayures. Et si, comme on le prétend, la mer doit se trouver complètement asséchée un jour, je plains de tout mon cœur le malheureux qui découvrira cette vieille caisse et qui essaiera d'en pénétrer le secret.